Bien, pour célébrer la nouvelle année, nous allons parler d'un Coran qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux. Alors vous me pardonnerez, ce n'était pas dans mes habitudes de mettre ce genre de logo un peu agressif, simplement comme un certain nombre de photos sont des photos qui n'ont pas été publiées et sur lesquelles les droits sont pendants, je vous demande de bien vouloir tenir compte de cela. Bon, nous vivons dans un monde cruel pour les images. Vous savez pas lesquelles. Pour impressionnant que puissent être parfois les manuscrits du Coran, ceux du 1er siècle ne jouissent pas d'une large renommée. Quelques spécialistes s'y intéressent, comme moi, suffisamment fous pour y consacrer leurs recherches, mais leur esthétique ne correspond pas au goût d'un public marqué par des siècles de pratiques et de valorisation de styles qui sont portés par une pratique qui est répandue encore jusqu'à nos jours. Il n'en est que plus surprenant de constater qu'un manuscrit coranique a pu échapper au sort commun. En 2008, Sabiha El-Khemir publiait un roman intitulé « The Blue Manuscript », ça n'est pas une publicité, qui avait été inspirée à cette Tunisienne par un manuscrit conservé en partie à Kairouan. Comme tant d'autres manuscrits du Coran des premiers temps de l'islam, le Coran bleu est à l'état de feuillets épars. Ses premiers et derniers folios ont disparu, si bien que si jamais ils avaient contenu des informations sur son histoire, par exemple la date d'achèvement ou le dépôt dans une mosquée en Waqf, tout cela a disparu définitivement. À la différence toutefois des manuscrits trouvés dans les dépôts ou guénisas de Foustat, Damas ou Sana, dont nous avons parlé au tout début, et dont, la plupart du temps, nous savons uniquement à quel moment leur existence a été portée à la connaissance des savants dans le courant du XIXe siècle, voire même aussi tard qu'en 1974 pour Sana, nous disposons d'une source aussi précieuse qu'exceptionnelle pour la collection de Kairouan. Un inventaire, qui ne paye pas de mine, dressé en mai 1294, a en effet été conservé. À cette date, un groupe d'hommes, probablement liés à la grande mosquée, passèrent en revue les manuscrits anciens qui se trouvaient dans la salle de prière. Ils semblent avoir été aidés dans leur tâche par un document antérieur que j'ai proposé de dater de 1135, et auquel il est fait à plusieurs reprises allusion dans le texte de 1294. Le premier feuillet du document, comme on peut le voir sur une photo publiée au début des années 60, a été endommagé et le coin supérieur droit du premier recto a disparu. Sur cette photo, on distingue cependant, dans l'angle supérieur gauche de ce même recto, la fin de deux lignes d'écriture. Donc c'est vraiment un tout petit fragment des premières lignes. La fin de deux lignes d'écriture, la seconde comportant un fragment de date, donc on voit encore Char, le mois, Rabi al-Awwal, Am, c'est l'équivalent de Sanat, l'année, et Salatin, donc 30, ce qui veut dire que les centaines manquent. Elles étaient indiquées au début de la ligne suivante qui a disparu avec le morceau de parchemin sur lequel était écrit l'inventaire. L'inventaire lui-même, étant daté de 1294, soit 693 selon l'ère de l'Égire, il serait surprenant que la date figurant au début soit 630, soit seulement 63 années égyriennes plus tôt, trop longtemps pour que ce soit celle du début de l'opération d'inventaire, qui aurait dans ce cas-là duré plusieurs décennies, trop proche pour que ce soit celle de l'inventaire antérieur auquel il est fait référence à plusieurs reprises dans la suite du texte, mais qui n'est jamais mentionné de manière complète par la suite parce que, justement, il a été déjà mentionné. La lecture 430 est exclue parce que l'inventaire fait référence à plusieurs reprises à des œuvres dont l'auteur a été actif après cette date, donc forcément les œuvres sont venues à un moment où l'inventaire, sont venues après 430. En revanche, si la date mutilée est 530, elle pourrait correspondre à ce document qui aurait donc été achevé en décembre 1135, soit plus d'un siècle et demi avant l'inventaire de 1294. La référence initiale aurait donc figuré dans ces trois lignes disparues. L'inventaire, comme tout inventaire, décrit brièvement les objets, ici des manuscrits, avec toutefois suffisamment de précision pour que nous puissions aujourd'hui identifier dans la collection ceux dont il est question. Parfois, une marque est indiquée dans le texte, consistant en une lettre ou encore un mot. On la retrouve sur certains manuscrits, comme ici, où la marque Kala figure dans l'inventaire, donc on sait que c'est ce manuscrit qui était décrit. Elle permet donc de reconnaître effectivement un manuscrit qui porte cette même marque et dont les caractéristiques coïncident avec la description. Parfois, cette dernière se suffit à elle-même, notamment pour les premières entrées. Les personnes qui ont préparé le document ont en effet fait figurer en tête, comme on pouvait s'y attendre, les copies coraniques les plus exceptionnelles, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les joyaux de la collection. Dans son édition de ce document, Ibrahim Chabbouh n'avait pas pris la précaution de signaler clairement ses lacunes, se contentant de placer des ponctuations que les lecteurs ultérieurs n'ont pas su interpréter. Seul le début du texte, en plein milieu d'une ligne, permettait de savoir qu'il y avait une lacune initiale, et de toute façon, Ibrahim Chabbouh n'avait pas publié cet élément, jugeant sans doute que c'était trop peu important pour être mentionné. En 1996, Tim Stanley a été le premier à comprendre, sur la seule base du texte publié, puisqu'il n'avait pas connaissance de cette photo, qu'il fallait restituer des césures entre ce qui est la fin de la première ligne, alors cette fois-ci je parle de l'inventaire lui-même, c'est-à-dire la fin de la première ligne ici et la seconde, il y a bien sûr un trou entre la seconde et la troisième, etc. etc. Donc il a compris que des lacunes existaient et que la première entrée évoquait un Coran avec cinq lignes à la page, puis venait la description de ce qui était en fait un autre Coran et non pas le même comme on l'avait cru jusqu'alors. Donc la deuxième ligne commence ici. Un Coran en sept juz, de grand format, écrit alors, je suis en train de traduire le texte, écrit alors en koufik sur du parchemin bleu foncé, akhal, puis à la ligne suivante, les sourates, les nombres de versets et les sections en argent, couverts de cuir estampé sur des ais doublés de soie. Comme on peut le voir sur la photo, la description était très certainement précédée par les mots « ritma kuram » qui font en quelque sorte, l'arabe ne connaissant pas de majuscules, on a recours à d'autres procédés pour signaler les césures dans le texte. Donc ici, le mot « ritma », c'est-à-dire « série coranique hein, », sont écrits avec une élongation qui permet de savoir qu'on a une description qui commence ici, la suivante ici, etc., etc. Donc on avait sans doute quelque part à cet endroit ce même mot qui commençait la description de ce qui était le numéro 2 et non pas le numéro 1 dans l'inventaire. Aussi bien Stanley qu'Alain Georges après lui ont fait observer que l'inventaire ne correspondait pas totalement aux caractéristiques des différents feuillets du manuscrit que nous connaissons. En particulier, le fait que soit signalée la présence d'une division en hizb, indiquée en argent, alors que les rosaces dans le même matériau pour marquer les dizaines de versets ne sont pas indiquées, les a beaucoup troublés. Il faut redire ici, d'une part, que l'inventaire n'est pas un catalogue et que, de ce fait, plusieurs des descriptions ne sont pas précises, surtout si un élément d'identification était déjà présent sur le manuscrit ou si ce dernier, un élément d'identification comme le Kala que je montrais tout à l'heure, ou si ce dernier, et c'est le cas du Coran bleu, était suffisamment exceptionnel pour se passer de plus de précision. Il faut d'autre part, bien sûr, tenir en compte que l'entrée qui nous intéresse est mutilée, donc le texte qui manque pouvait donner des précisions supplémentaires. De ce long examen de l'inventaire médiéval, on retiendra donc qu'il indique, selon toute vraisemblance, que ce manuscrit du Coran se trouvait à Kairouan au début du XIIe siècle, après l'épisode terrible des invasions hilaliennes qui avaient dévasté la Tunisie zyride et réduit Kairouan au rang de bourgade rurale. Les feuillets du manuscrit mesurent environ 31 cm sur 41, ce qui signifie qu'un bifeuillet, c'est-à-dire ce qu'on voit sur l'écran, se présentait sous la forme d'une bande de parchemin de 31 cm sur 82. Nous pouvons en conclure qu'une feuille de parchemin, brute, c'est-à-dire sortant des mains du parcheminier, permettait d'obtenir deux bifeuillets qui formaient un rectangle de 62 sur 82 après massicotage. Cela repose sur les mesures d'un bifeuillet du Coran d'époque omeyyade, qui est à Kérouan, de dimension in folio, qui mesurait, le bifeuillet, 50 sur 86. Donc il faut imaginer que le Coran bleu a été fabriqué avec des feuilles de parchemin qui étaient éventuellement plus grandes que ce manuscrit omeyyade de Kérouan. 10 cm de plus, c'est quand même quelque chose qui est notable. Si, en revanche, on ne tirait, si la peau utile, hein, parce que bien sûr, il y a les morceaux de pâte qui font des éléments supplémentaires, mais on ne peut pas les utiliser. Il faut massicoter d'abord pour arriver à un rectangle correct. Donc, si on part de l'idée que la peau la plus grande qu'on pouvait obtenir mesurait 50 cm sur 86, à ce moment-là, ça veut dire qu'on faisait un bifeuillet dans une feuille de parchemin, mais qu'on avait des déchets considérables. Dans la première hypothèse, il fallait 150 peaux seulement. Enfin, je dis seulement parce que nous avons vu que des manuscrits utilisaient jusqu'à 1000 peaux pour être réalisés. Si on prend la deuxième hypothèse, il en fallait 300 et des déchets, enfin je parle de déchets, mais bien sûr, ils étaient recyclés pour faire d'autres manuscrits. Les feuillets ont été teints en bleu, un bleu qui n'est pas absolument constant dans la mesure où, on peut bien l'imaginer, plusieurs bains ont été réalisés pour réussir à produire le colorant pour teindre le parchemin. Une analyse physico-chimique a permis de déterminer qu'il s'agissait d'indigo. Se pose alors la question de la technique. En principe, si l'on trempe du parchemin dans un liquide, on l'expose à une modification qui le racornit au point de le rendre impropre à l'emploi. Pour cette raison, Jonathan Bloom, qui a écrit différents articles sur le Coran, mais d'autres aussi après lui, estime que le parchemin n'a pas été teint, mais peint. C'est-à-dire qu'on a pris une brosse pour enduire les feuillets. L'observation d'un feuillet conservé à la Chester Beatty Library de Dublin a permis d'observer que le bleu n'est pas formé par une croûte de pigments, ce qui aurait été le cas s'il était peint, mais consiste en cristaux extrêmement fins qui correspondent à une formation qui est associée au séchage à l'air d'une teinture à base d'indigo et à l'oxydation qui s'ensuit et qui produit précisément cette couleur bleue. Donc si on se fie à cette analyse, cela conduit, et c'est ce qu'a conclu Alain Georges, à penser que le parchemin avait été teint par immersion dans une solution à base d'indigo, selon une technique que nous ne connaissons pas, mais qui permettait justement d'éviter les inconvénients de la teinture appliquée au parchemin. Avant de commencer la transcription du texte, les copistes ont tracé avec une pointe sèche une réglure qui leur a permis d'écrire bien horizontalement. Vous en voyez les traces ici, hein, ça n'est pas un ajout, c'est dès le départ que le copiste donc, a tracé les 15 lignes nécessaires plus les deux verticales. Sur les 15 lignes ainsi indiquées et toujours visibles sur tous les feuillets que nous connaissons, le texte a été écrit à l'encre dorée. Il s'agit en fait d'une technique, la chrysographie, qui implique deux étapes. La première consiste en l'application de la dorure et la deuxième en la réalisation du contour de chaque lettre avec un fin trait d'encre brune plus ou moins foncé. Cette technique se distingue de celle que nous connaissons pour les copies de la Bible sur parchemin pourpre dont je parlerai dans un instant, où la dorure ou l'argent est appliquée seule. Quand est apparue cette technique, le manuscrit de Fustat que nous avions vu précédemment en fournit peut-être le plus ancien exemple. Depuis longtemps, ceux qui se sont intéressés au Coran bleu ont par ailleurs relevé une différence entre les deux côtés de chaque feuillet, Sur l'un, l'écriture est très lisible, alors que sur l'autre, elle l'est sensiblement estompée. Alors, mon exemple n'est peut-être pas des plus pertinents, mais vous voyez ici, la dorure tient moins bien. Et si vous regardez, par exemple, les catalogues de vente aux enchères, on vous montre toujours un seul côté, celui qui présente bien, on ne vous montre pas, l'autre, bien sûr. Et après ça, dans votre salon, vous ne montrez que le beau côté. Ce qui fait que, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, ce qui est un peu gênant pour faire des recherches. Cette discordance est, selon toute vraisemblance, à mettre sur le compte de la différence entre les côtés chair et poil du parchemin, une chose que maintenant vous connaissez bien. L'écriture elle-même est de style D4, ça c'est ma typologie, donc vous me pardonnez d'utiliser ces termes, le D ne veut pas dire des roches, hein, je vous rassure tout de suite. Reconnaissable, il y a A, B, C, D, donc c'est tout à fait indépendant. Reconnaissable à la forme des alifs, hein, vous voyez cette forme, les nouns avec cette tête assez particulière, etc., etc. Dans les fragments de Foustat, cette écriture est clairement associée à un nombre de 15 ou 16 lignes à la page. Cela n'est sans doute pas un hasard si une écriture de même style apparaît sur un autre exemplaire du Coran, deux exemplaires du Coran qui ont des parallèles très frappants avec le Coran bleu. Il s'agit d'une part d'un exemplaire en chrysographie qui compte 15 lignes à la page, comme le Coran bleu, sur des feuillets de 28 cm sur 37, c'est-à-dire un tout petit peu plus petit que le Coran bleu. L'autre manuscrit est une copie de dimension plus réduite, 21 cm et demi sur 29 et demi, avec cette fois non pas 15 mais 16 lignes de texte et à l'encre noire, mais sur un parchemin qui est teint en jaune, donc autre cas d'utilisation de la teinture sur le parchemin, et qui conserve la trace d'une réglure à la pointe sèche comme le Coran bleu. La complexité du processus d'écriture qu'implique la chrysographie réclamait sans doute l'intervention de plusieurs scribes familiers avec les techniques de l'enluminure de manière à accélérer le rythme de production du manuscrit. C'est pour moi la raison qui explique les légères différences de style qui apparaissent entre les différents feuillets que nous connaissons, selon qu'ils sont placés au début ou à la fin du Coran. Là, j'ai choisi donc un fragment qui se trouve dans la sourate 2. Là, c'est en revanche la sourate 43. C'est pas très criant, mais il y a des petites variations. Par exemple, dans la forme des nouns, ici, la tête est plus marquée. Hein. Tandis que là, elle est pratiquement de la même épaisseur que le reste du corps. Et il y a sans doute d'autres détails techniques qui doivent être pris en compte. Il est vrai que le processus lui-même de la chrysographie rend l'écriture d'emblée plus artificielle que cela n'est le cas quand l'opération est faite avec un calam et où définitivement on a la lettre. Là, il y a une possibilité de retouche non négligeable. L'état du texte mériterait d'être examiné de plus près. J'ai relevé par exemple des particularités orthographiques comme celle qui est encadrée en rouge pour Bi Ayatine, qui contient donc 4 denticules au lieu de 3, comme c'est le cas de nos jours. Cette orthographe se rencontre sur les plus anciens manuscrits du Coran. Malheureusement, nous ne savons pas à partir de quel moment elle cesse d'être employée. C'est, semble-t-il, dans le courant du IXe siècle. Pour autant que je puisse en juger d'après les photos publiées ou les feuillets que j'ai pu observer, la vocalisation brève, marquée par les points rouges, est absente, un point qui mérite d'être noté. Les fins de versets sont indiquées. Dans un premier temps, ce sont de simples tirets, comme ici, qui ont séparé les versets, mais ils ont été recouverts ultérieurement, et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a une tache noire. En fait, c'est un deuxième décor qui a été ajouté par la suite, un décor à base d'argent, et l'argent, comme vous le savez, s'oxyde, ce qui explique cette trace noire qui dissimule en partie, dans d'autres cas c'est encore plus net, les tirets initiaux. Pour les groupes de 5 et 10 versets, il y a également deux étapes qui s'observent de façon cette fois différente. La première étape correspond à ces cercles, avec à l'intérieur une lettre à valeur numérique, l'abjad, et une deuxième étape où on a ajouté dans la marge une rosace en argent encore, avec cette fois le nom de la dizaine écrit en toutes lettres. Donc l'oxydation fait qu'ils apparaissent comme noirs, mais à l'origine, bien sûr, ils étaient plutôt blancs. Il en va de même pour les groupes de cinq versets pour lesquels on a ajouté une lettre à valeur numérique, un « ha », qui note l'emplacement des cinq versets. Le début des sourates est marqué par des décors qui sont, somme toute, assez modestes. C'est un détail donc, des dizaines. Des décors relativement modestes. Une ligne a été laissée libre par le copiste afin que l'enlumineur y insère une bande plutôt qu'un bandeau accompagné dans la marge extérieure par une vignette. Les exemples ne sont pas très nombreux et proviennent tous de la fin du manuscrit. Des cinq vignettes que je connais, quatre présentent une grande parenté d'inspiration. Le dessin de celle qui précède la sourate 53, que j'ai mis sur le côté pour cette raison, est un peu plus maladroit, et bien qu'on y retrouve une forme de feuille en trèfle, qui est ici, enfin le trèfle est un petit peu approximatif, bien donc on trouve cette forme dans les autres également, il manque dans cette vignette un rinceau qui semble la marque distinctive des autres décors. Rinceau qu'on trouve ici, qu'on retrouve là, qu'on a ici et là. Donc vous voyez, les quatre autres sont beaucoup plus homogènes du point de vue du style. Ces dernières, d'ailleurs, s'organisent selon un axe qui est toujours bien marqué. Il y a une sorte de ligne qui donne la direction, qui supporte une floraison développée ou une grenade, tandis que des rinceaux symétriques se développent sur les côtés. Les bandes elles-mêmes, dont je connais plus d'exemples, puisqu'il y a un cas où la vignette a disparu, mais la bande est toujours visible. Donc les bandes décoratives elles-mêmes sont très simples et reposent sur la répétition d'un même élément sur toute la largeur de la surface d'écriture. Elles ne comportent absolument aucun espace destiné à recevoir l'indication du titre et du nombre des versets des sourates. Cette absence a été réparée. Ces informations ont en effet été ajoutées dans la marge avec une encre à base d'argent que l'oxydation a noircie. On en voit des exemples ici. Vous avez le titre de la sourate, sans indication qu'il s'agit d'une sourate, mais enfin on le devine, et juste en dessous, donc le nombre des versets. Nous n'avons conservé qu'un seul feuillet du Coran bleu avec une enluminure en pleine page, maintenant dans une collection privée. L'ensemble se signale par la présence massive de dorures, ce qui est relativement exceptionnel puisque généralement, et on en verra des exemples dans un instant, les décors de ce type comprennent des espaces soit réservés, et donc le parchemin fait office de blanc, soit utilisant de la couleur. Ici, comme le signale Stanley, un fond doré couvre l'essentiel du rectangle de 199 mm sur 290 qu'occupe le décor. Des traits tracé à l'encre, dessine dans la partie centrale, vous les voyez ici, des carrés placés sur la pointe, à l'intérieur desquels je crois distinguer des motifs d'inspiration végétale. Mais l'état de ce décor ne permet pas beaucoup d'observation. Trois bandes forment l'encadrement, depuis le centre vers l'extérieur. Tout d'abord, à l'intérieur, un rinceau avec des boucles donc, qui courent ici, qui enserre des feuilles, puis au milieu, deux entrelacs associés, ici, et enfin, à l'extérieur, une sorte de série de demi-rosettes avec une bande sinueuse qui court entre elles. Le décor est accompagné dans la marge extérieure par une vignette dont on voit assez mal les détails, mais suffisamment pour en faire un faire quelques remarques que je repousse à un tout petit peu plus tard. L'association du bleu et de la dorure n'a pas peu contribué à la renommée du Coran bleu, particulièrement après 1976 et les expositions du World of Islam Festival à Londres, où il a été montré. J'évoquerai rapidement les débats qui se sont développés autour de cette copie d'exception après cette date et plus encore après l'apparition de feuillets sur les ventes publiques depuis 1984. Il y a un siècle, le collectionneur suédois Frédéric Martin, dont on a déjà évoqué le nom, fut le premier à détenir des feuillets du manuscrit qui sont depuis entrés à la Chester Beatty Library. Il avait émis l'hypothèse que ce Coran avait été déposé en bien de main morte par le calife abbasside Al-Ma'mun, qui a régné entre 813 et 833, auprès de la tombe de son père, le célèbre Harun al-Rachid, qui règne de 786 à 809, à Tous, autrement dit Machad actuellement, et que le bleu était employé en raison de son association avec le deuil. Sur l'un des feuillets, aujourd'hui dans la collection du Fogg Art Museum de Cambridge, dans le Massachusetts, figure un tampon qui a été identifié comme celui des douanes iraniennes. Sa présence a donné lieu à des débats. Le tampon avait-il été apposé lors d'une procédure normale ou l'avait-il été pour faire accroire que le feuillet et donc le manuscrit étaient originellement conservés en Iran ? Dans la notice qui apparaît sur le site internet du musée Aga Khan de Toronto, où sont conservés deux autres feuillets, il est dit, je vous traduis, c'est la fin, que l'on connaît une centaine de feuillets de ce Coran dans des musées et des collections privées, y compris une section à Mashhad, en Iran, et 67 pages dans un musée à proximité de Kairouan, en Tunisie. Malheureusement, la source de l'information n'est pas indiquée. Après la publication de l'inventaire de la bibliothèque de la Grande Mosquée de Kairouan, l'origine iranienne du manuscrit a été battue en brèche. L'éditeur du document, Chabbou, joignait d'ailleurs à sa publication une reproduction d'un feuillet conservé à Kairouan en faisant observer qu'il ne s'y trouvait qu'un seul exemplaire répondant à cette description et que donc la page appartenait certainement au manuscrit décrit. L'idée que le Coran bleu était une production de l'Ifriqiya au Xe siècle et qu'il s'agissait donc d'une copie zyride, du nom de la dynastie berbère qui règne sur l'Ifriqiya entre 972 et 1148, de même que plusieurs des manuscrits de ce fonds, se répandit progressivement. Lors du festival World of Islam à Londres en 1976, deux expositions contenaient chacune un ou plusieurs feuillets du manuscrit. Dans l'une, il était attribué à la Mésopotamie et daté du IXe siècle, tandis qu'à la British Library, l'opinion de Chabbou était reprise telle quelle, c'est-à-dire Ifriqiya, Xe siècle. Devant cette incohérence, Bloom reprit le dossier et chercha à apporter une solution. Observant que la numérotation des groupes de diversets utilisait pour certaines lettres des valeurs numériques dont nous savons que leur usage est spécifique à l'Afrique du Nord, il suggérait que la copie avait été réalisée dans cette région pour un des souverains fatimides qui y régnèrent entre 909 et leur départ pour l'Égypte en 969. Dans un texte où sont décrits des manuscrits de la bibliothèque fatimide, il pensait même trouver un indice pour faire cette association du bleu et de la dorure comme une spécificité ou une signature fatimide. 20 ans après l'exposition de Londres, Stanley reprenait de nouveau le dossier pour publier un groupe de feuillets, dont l'unique décor en pleine page que vous venez de voir à l'instant. Outre la clarification décisive qu'il a apportée sur le texte de l'inventaire, il relevait que Bloom avait mal compris la citation qu'il invoquait pour attribuer le manuscrit aux Fatimides, association dorure et bleu. Il faisait observer en revanche que la copie comportait un ensemble de traits archaïques qui pouvaient s'expliquer comme une revendication de légitimité de la part de dynasties comme les Fatimides, mais aussi les Omeyyades d'Espagne. Étaient-ils alors les commanditaires du Coran bleu ? Pour Stanley, la réglure représentait une innovation propre à l'Espagne musulmane et la chrysographie sur un fond bleu évoquait les inscriptions de la grande mosquée de Cordoue qui ont été elles-mêmes comprises comme une sorte de revendication ou une tentative de la part d'Al-Hakam II, qui règne entre 961 et 976, pour se rattacher au passé syrien et omeyyade de la dynastie. Il admettait toutefois, in fine, qu'une origine zyride ne pouvait être exclue. Marcus Fraser et Will Kwiatkowski ont consacré à leur tour une notice développée au manuscrit dans un catalogue. Invoquant les évangiles de Rossano, dans le sud de l'Italie, copiés sur du parchemin pourpre, ils ont proposé de voir dans le Coran bleu un manuscrit du IXe siècle, produit dans l'Ifriqiya Aghlabide, c'est-à-dire la dynastie qui précède les Irides, ou encore la Sicile Chalbide. Dans un article très récent de 2009, Alain Georges relevait de son côté un certain nombre de difficultés soulevées par les datations au Xe siècle, somme toute tardives, au vu de nombreux archaïsmes contenus dans le manuscrit, et concluait que ce dernier était une copie produite sous les premiers Abbassides, dans la capitale impériale, Bagdad, ou dans un autre centre important de l'Empire, mais au Proche-Orient. Tout récemment, Arianna Dottone est revenue sur la question de la date et du lieu de production. Exploitant cette fois-ci un parallèle occidental, mais chrétien, la Bible de Cava dei Tirreni, copiée au début du IXe siècle dans le nord de l'Espagne, elle suggère que le Coran bleu a été produit dans l'Espagne omeyyade au IXe siècle, après 825. Comme elle le remarque dans sa conclusion, les manuscrits voyagent, réalité qu'il ne faut jamais oublier. Puisque la Bible de Cava est venue des Asturies en Italie du Sud, rien n'interdit de penser que le Coran n'ait pas été transporté à un moment d'Al-Andalus à Kairouan. C'est ce qu'elle affirme. Que dire de ce manuscrit dont l'identité tunisienne semble si forte qu'il a inspiré localement des inscriptions qui boucle la boucle des parallèles, si vous me permettez une formule audacieuse, puisque nous avons tous appris que les parallèles ne se croisent jamais, donc une boucle parallèle, c'est un petit peu audacieux. Mais enfin bon, que ne ferait-on pas pour le Coran bleu ? Où a-t-il été produit ? À quelle date ? Avant de m'exercer à mon tour à ce périlleux exercice des attributions, je voudrais revenir sur le contexte et souligner que le caractère unique du Coran bleu complique singulièrement la tâche. Comme vous avez pu le constater, très peu de copies coraniques anciennes présentent des similitudes susceptibles d'être exploitées pour cerner les deux questions qui sont posées. La chrysographie a été employée avant les débuts de l'islam, bien sûr, et elle est attestée depuis une date ancienne dans le monde musulman. En dehors du domaine du manuscrit, l'inscription en mosaïque du Dôme du Rocher de 692 constitue un point de repère chronologique tout à fait essentiel. D'autant que le fond vert foncé peut être rapproché de l'indigo sombre de notre manuscrit. Alors là, je n'entre pas ici dans un débat sur la façon dont les anciens voyaient les couleurs, si le bleu était du bleu ou du vert également. C'est une affaire qui concerne les linguistes. Je ne pense pas qu'à l'époque, on n'ait pas distingué un Coran teint en vert d'un Coran teint en bleu. Mais peut-être effectivement que le mot utilisé pour les désigner l'un et l'autre était le même. Ça, c'est une autre question. Donc, à part cet exemple du Dôme du Rocher bien préservé, s'ajoutent des récits figurant dans des sources relatives aux mosquées de Médine et de Damas, où des inscriptions dorées sur fond bleu sont signalées, une association qui caractérise également une inscription bien préservée, elle, qui a été trouvée à Baïsan, en Palestine, et date du règne du calife Omeyyade Hicham entre 724 et 743. Ces différents exemples témoignent de la reprise par les Omeyyades de présentations familières dans l'art byzantin et intégrées de manière originale dans les édifices construits ou rénovés sous le patronage de la dynastie. Les inscriptions nous conduisent au domaine des manuscrits si nous acceptons un récit conservé par An-Nadhim dans son Fihrist. Dans cet ouvrage du Xe siècle, l'auteur rapporte qu'un certain Khalid ibn Abil Hayyaj avait été chargé de préparer l'inscription coranique dorée du mihrab de la mosquée de Médine. Le calife Omar II du nom, l'Omeyyade, charmé par le résultat, lui aurait demandé de réaliser une copie du Coran dans le même style. Je ne connais pas de copie chrysographiée du Coran d'une date aussi ancienne, ce serait début du 8e siècle, mais j'observerai que dans le manuscrit de Foustat dont je parlais tout à l'heure, les lettres à valeur numérique employées pour marquer les dizaines de versets sont exécutées en dorure. Une technique spécifique, différente d'ailleurs de celle qui est utilisée dans d'autres traditions manuscrites, est attestée dès la fin du 7e siècle dans un milieu musulman. Il est fort possible toutefois qu'en ce domaine encore, des modèles byzantins ou plus largement chrétiens aient joué un rôle. Les exemples omeyyades associant l'écriture en lettres d'or peuvent être complétés, et le bleu peuvent être complétés par d'autres occurrences proprement abbassides. En 903, Ibn Rushta visitait la mosquée du prophète à Médine et remarquait une inscription en mosaïque réalisée sur l'ordre du calife Harun al-Rachid par des artisans de Jérusalem et donc peut-être selon les mêmes techniques que l'inscription du dôme du rocher. Une description du nilomètre lors de sa reconstruction en 861 sous le règne du calife al-Mutawakkil signale également l'association d'or et de lapis-lazuli. L'inscription, et c'est intéressant, consistait principalement en versets coraniques. L'idée de teindre le parchemin était également, comme la chrysographie, connue avant l'islam. La célèbre copie des évangiles de Sinope, dont le texte est exécuté en caractère doré sur un parchemin teinté en pourpre, date du VIe siècle, tandis que d'autres copies des Écritures associer le parchemin teint avec une encre à base d'argent, comme c'est le cas des évangiles de Rossano mentionnés précédemment. À plusieurs reprises déjà, l'emploi de cette même combinaison pour des édits impériaux ou pour la correspondance a été signalé comme source possible de l'inspiration des concepteurs du Coran bleu. D'un autre côté, comme je le disais précédemment, l'utilisation de parchemin teint pour des copies du Coran était sans doute plus répandue à l'époque ancienne. J'ai déjà signalé les feuillets teints en jaune qui sont préservés dans la collection de Damas. On trouve dans cette dernière un autre exemple. Il s'agit d'un unique feuillet d'un rouge sombre qui est peut-être une imitation de la pourpre. Et en outre, on peut ajouter des feuillets teints en rouge ou en orange qui sont conservés dans différentes collections, par exemple comme celui-ci, au Metropolitan Museum of Art de New York. Pour la plupart des commentateurs, il est évident que la pourpre a représenté pour le commanditaire musulman du Coran bleu un modèle qu'il a voulu s'approprier. Il existe cependant en corollaire une question. Pourquoi le parchemin n'est-il pas pourpre ? On ne peut écarter l'hypothèse que l'appropriation par le christianisme ou l'utilisation par le christianisme de la symbolique associée à la pourpre et peut-être même la combinaison pourpre-or rendait peu désirable sa reprise pour une copie du Coran. Nous avons vu que la confrontation avec les livres sacrés des autres communautés du Proche-Orient avait pu jouer un rôle dans l'évolution du mushaf au cours des deux premiers siècles de l'islam. Dans ces conditions, le bleu a pu représenter une alternative intéressante. Des raisons de coût, en tous les cas, ne sauraient être invoquées pour expliquer que le modèle byzantino-chrétien, si tant est qu'il ait existé, n'ait pas été suivi. Même en supposant que le manuscrit ait été élaboré dans une région où les techniques de préparation de la pourpre n'étaient pas connues ou maîtrisées, il aurait été possible d'importer du parchemin teint. Si nous faisons par exemple l'hypothèse que le Coran bleu est une production ifriqiyenne, donc la Tunisie à l'époque musulmane, d'époque aghlabide, c'est-à-dire du IXe siècle, je rappellerai qu'à la même époque, on a fait venir les carreaux de mosaïque qui ornent le mihrab de la grande mosquée depuis la Mésopotamie, et c'était certainement beaucoup plus lourd à transporter que des feuillets de parchemin. Sans aller jusqu'à présent prétendre que l'utilisation du parchemin teint était très répandue dans les débuts de l'islam, les quelques témoins que nous possédons montrent par leur diversité, jaune, rouge, orange, rose, c'est un autre exemple, leur diversité donc montre qu'il n'y avait sans doute pas de fixation sur une couleur plutôt que sur une autre. Le goût pour les supports teintés ne cessera d'ailleurs pas dans le monde musulman. Avec l'introduction du papier, plus facile à traiter, certes, cette mode se maintiendra et même se développera. Dans le cas du Coran bleu, on pourrait enfin penser, comme l'a fait Georges, à l'opposition coranique entre Nour, la lumière, et Zulumat, les ténèbres, qui ont pu représenter pour le commanditaire une référence essentielle. L'archaïsme de la copie me semble un point beaucoup plus important. La présence de la réglure n'est pas, à mon sens, un indice d'une date récente. Dans les manuscrits des premiers temps de l'islam, il est relativement habituel d'observer des traces de réglure, par exemple dans le Codex Patricino-Petropolitanus, mais d'autres aussi en ont. Par la suite, dans les copies des 8e au 9e siècle, ces traces disparaissent, ce qui ne veut toutefois pas dire que les copistes se passaient de ces indications pour maintenir les lignes horizontales. La seule régularité des dimensions de la surface d'écriture dans un même manuscrit est difficilement explicable sans l'utilisation précisément de cette technique. Il est important de noter enfin que le Coran sur parchemin jaune est également réglé de la même façon. Il me semble qu'un facteur proprement technique, la teinture du support, imposait une réglure à la pointe sèche au lieu d'une autre technique. L'absence de titre des sourates, à l'origine dans la phase initiale, rapproche le Coran bleu des copies que nous avons examinées précédemment, comme celle-ci, où cet élément a également été ajouté. De même, l'absence de ponctuation vocalique évoque des usages anciens. L'orthographe, je l'ai dit, conserve de son côté quelques traces des pratiques archaïques. En datant le manuscrit du Xe siècle, la question du moment où les titres des sourates et les décors de groupes de 5 et 10 ont été ajoutés se pose et n'a jamais été examinée sérieusement. Les types des décors en argent pour les dizaines sont des types bien attestés dans les copies coraniques du IXe siècle, de même que le style de l'écriture employé pour les titres et le nombre des versets des sourates. L'hypothèse que les uns et les autres aient été réalisés au Xe siècle ne se heurterait pas à de très fortes objections. En revanche, une date postérieure doit être définitivement écartée. Si nous revenons à la proposition de Bloom ou de Stanley de reconnaître dans le Coran bleu une production du Xe siècle, elle se heurte bien sûr au problème de l'ajout des titres et des décors de dizaines. Au lendemain de l'achèvement de la copie, à la fin du Xe, voire au début du XIe siècle, on aurait modifié de cette façon le manuscrit. Ça paraît très peu vraisemblable. En revanche, si le manuscrit a été réalisé à la fin du 8e ou au tout début du 9e, on peut tout à fait imaginer qu'un siècle plus tard, alors que l'usage d'indiquer le titre et le nombre des versets des sourates s'était bien installé, la décision a été prise de procéder à cet ajout dans un style qui était effectivement en usage à l'époque. Qu'en est-il du décor en pleine page? Est-il, comme je le disais, un ajout? Comme l'indique l'inventaire de 1294, le Coran bleu était un exemplaire en 7 tomes. Dans la tradition musulmane, l'idée de diviser le texte en fractions de même taille semble remonter à la fin du 7e siècle. La fabrication de copies du texte sacré est-elle quelque chose qui s'est introduit simultanément ou postérieur? Malheureusement, nous n'avons pas d'exemple daté qui permettrait de répondre clairement à cette question. En revanche, comme je le signalais à propos des Corans avec 12 lignes à la page, le juriste Malik ibn Anas s'élevait contre cette pratique dans le troisième quart du 8e siècle et affirmait que les copies du Coran devaient être en un seul et unique volume. Ce qui veut dire que cet usage avait commencé à se répandre de son temps et qu'il fallait élever la voix pour l'empêcher. À l'époque ancienne, les septièmes comptaient parmi les formules populaires et la fin du premier de ces septièmes coïncidait avec la fin du verset 61 de la sourate 4. Or, au recto de ce feuillet, malheureusement je n'ai pas de photo, au recto de ce feuillet, le texte ne s'achève pas vraiment à cet endroit. C'est-à-dire que nous avons la dernière ligne, un décor avec le chiffre 60, avec également dans la marche cette même indication, mais après cela, à la fin de la ligne, nous avons le début du verset suivant. En outre, au verso, c'est-à-dire sous ce que vous voyez à l'écran, en examinant avec des ultraviolets, il est possible de déchiffrer la suite du texte cachée par le décor. En d'autres mots, l'enluminure a été ajoutée au-dessus du texte originel du manuscrit. Pourquoi donc le copiste a-t-il continué à travailler et a retranscrit le verset 62 puis le 63? Stanley explique la situation comme le résultat, et je le cite, soit d'une erreur du copiste, soit d'un changement de plan qui conduisit à relier le manuscrit en septième. L'explication ne convainc pas complètement. Il serait très surprenant que le copiste ait complètement oublié de s'arrêter puis que l'enlumineur ait introduit le décor de dizaines sans essayer de dissimuler le mot en trop et surtout en changeant de style au moment de dissimuler complètement le texte en excédant au verso grâce à un usage appuyé de la dorure et en s'écartant du style qui a cours d'ailleurs dans le reste du manuscrit. Différents détails invitent en effet à reconnaître un travail plus tardif, notamment la fameuse vignette dont je parlais tout à l'heure. Je suis désolé de ne pas pouvoir mieux vous la faire voir, mais son état n'est pas très satisfaisant. Donc, elle est clairement d'une toute autre inspiration que celle que nous trouvons en d'autres points du manuscrit. C'est vrai que ce décor se trouve dans la sourate 4, et les exemples de décors de vignettes que je vous ai montrés tout à l'heure sont pour les sourates 30 jusqu'à 60 du Coran, donc la fin du manuscrit. On peut imaginer qu'il y ait eu un changement de main. Mais si ça n'est pas le cas, on peut voir une différence, notamment dans le fait que ce décor ne repose pas du tout sur les rinceaux qui se développent symétriquement par rapport à un axe. Ici, on a de larges feuilles symétriques au dessin assez approximatif. Et pour tout dire, le dessin me semble assez bâclé. Très clairement, pour moi, c'est un autre enlumineur qui a été chargé de réaliser ce décor de manière à recycler un fragment d'un manuscrit de prix. Je fais pour ma part l'hypothèse que le Coran a été retaillé en septième, soit à un moment où sa reliure originelle avait cédé, soit parce que cette reliure avait été volontairement cassée pour retirer une partie des feuillets. La date de cette opération ne peut être fixée, pour le moment du moins, mais elle est forcément antérieure à 1135, puisque l'inventaire de Kairouan dit qu'il s'agit d'une copie en 7 volumes, donc il y avait 7 volumes à ce moment-là. Malheureusement, la lacune au début de la description nous empêche de savoir s'il y avait bien les 7 volumes à Kairouan ou s'il n'y en avait que 6. Ça, c'est un point, malheureusement, qui a son importance et sur lequel nous n'avons pas de réponse claire. Une datation haute, qui a donc ma préférence, se heurte aussi à des objections. Je viens de faire référence aux opinions légales de Malik ibn Anas, qui condamnait la division des copies du Coran en plusieurs volumes, une condamnation que les 3 manuscrits à 12 lignes à la page semblaient respecter. Il s'opposait également à l'usage de la chrysographie. Alors, comment se fait-il que le Coran bleu, s'il est bien une production abbasside, ne se conforme ni à la division, ni à l'interdiction de la chrysographie? Alors, sur la question de la division en 7 volumes, il est facile d'y répondre, puisque, comme je disais, c'est un ajout, donc c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'état initial du manuscrit. La question de la chrysographie est plus embarrassante. Les 3 manuscrits in plano, complètement dépourvus de dorure, seraient selon moi des productions répondant à une commande du calife Al-Mahdi entre 775 et 785, qui les destinait aux grandes villes de son empire. Médine était l'une de ces villes, et c'est d'ailleurs à propos de la copie envoyée dans cette cité que nous disposons de cette information. Le contexte religieux et les circonstances qui pourraient être celles du début de son règne me paraissent expliquer très bien les caractéristiques austères de ces manuscrits. D'un autre côté, le même calife avait fait réaliser des inscriptions similaires à celles de l'Omeyyade al-Walid, c'est-à-dire, selon toute vraisemblance, en caractère doré sur fond bleu, pour les placer à l'entrée de la mosquée du prophète à Médine. D'autres exemples épigraphiques anciens, dans lesquels l'écriture dorée et le front sombre, qu'il soit bleu ou vert, sont associés, se trouvent tous dans la partie centrale de l'Empire et montrent la prégnance de cette association. Ces modèles ont pu inspirer le commanditaire du manuscrit. Georges a fait l'hypothèse que cette présentation auré-bleu en épigraphie constituait une spécificité des inscriptions impériales et que le Coran bleu représenterait donc une commande califienne qu'il faut probablement placer à la fin du 8e siècle, alors que les manuscrits coraniques opérait une mutation dont je parlerai dans un instant. L'inventaire de Kairouan atteste la présence de cette copie dans la grande mosquée de cette ville au début du XIIe siècle, mais avant. Comme le rappelait justement Dottone, les manuscrits bougent. Depuis longtemps, l'argument supposé d'Irimant qui avait été utilisé par Blum en faveur d'une production en Afrique du Nord s'est avéré complètement inopérant. Il faut donc maintenant approfondir les recherches sur ce manuscrit pour déterminer le lieu où il a été produit, ce pourrait être Bagdad ou une des grandes métropoles du Proche-Orient musulman. Les manuscrits que nous avons vus sont, dans leur totalité, des Corans en un unique volume, commençant par la sourate 1 et s'achevant par la sourate 114, même si une réserve pourrait être faite pour celui que nous venons voir, dans la mesure où on pourrait faire valoir qu'il était peut-être en deux volumes comme l'autre Coran doré. Mais je laisse cette question de côté. La course vers des copies coraniques de dimensions toujours plus imposantes nous a conduit du Codex Parisino-Petropolitanus au Coran in plano. Le Coran bleu avec ses 600 feuillets de format in quarto, représentant d'une certaine manière une régression en termes de taille. Mais une recherche originale pour donner une apparence de luxe au manuscrit. En fait, comme nous allons le voir, les artisans du livre avaient atteint les limites de ce qu'ils pouvaient produire avec le matériau dont ils disposaient, le parchemin, et surtout avec les contraintes physiques associées au codex. De fait, comme je l'annonçais à l'instant, un nouveau chapitre s'ouvrait au IXe siècle. Tournant le dos au gigantisme à tout prix, eux-mêmes, les artisans ou leurs commanditaires, vont rechercher des solutions plus subtiles pour produire des manuscrits imposants et surtout pousser plus loin leur quête de la beauté. Dans ce nouveau chapitre de l'histoire du manuscrit coranique des débuts de l'islam, les acteurs principaux, copistes, enlumineurs ou relieurs, restent anonymes comme leurs prédécesseurs. Nous en savons un peu plus sur les pratiques scribales, puisque la quantité des manuscrits qui ont survécu jusqu'à nos jours nous permet de traiter des séries de copies de même style. Il a été ainsi possible de montrer que les écritures sophistiquées de cette période sont soumises à des règles extrêmement précises concernant la forme des lettres ainsi que les dimensions de l'écriture ou encore la mise en page. Comme notre intérêt porte cette année également sur la façon dont les élites du monde musulman approchaient les copies du texte sacré et les intégraient dans leur stratégie, je vais me tourner vers trois manuscrits coraniques qui représentent une nouvelle étape dans notre connaissance des liens entre le pouvoir et le Coran. Pour la première fois, leur environnement peut être cerné avec une certaine précision, et cela parce que les documents qui leur étaient associés ont été préservés. Dans les exemples antérieurs, les comparaisons avec d'autres objets, éventuellement contemporains, ou des informations conservées dans des sources anciennes, nous ont permis de formuler des hypothèses à propos de ceux qui ont pu être les commanditaires. Avec les trois manuscrits dont nous allons parler, nous disposons de noms de personnages qui sont connus et qui nous permettent donc de pousser l'enquête un peu plus loin. Tous trois, nous le verrons, portent le titre de Maola Amir al-Mu'minin. Le terme Maola, et c'est pour ça que je l'ai mis ainsi dans le titre, désigne en principe un esclave affranchi, stricto sensu, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est un affranchi du calife lui-même dont il s'agit, Maola Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin, c'est la désignation du calife. Dans la pratique, comme nous allons le voir, les personnages concernés ne sont pas tous d'anciens esclaves, dans la mesure où c'est leur père qui était esclave, mais appartiennent au milieu des officiers turcs qui jouent un rôle très important durant le IXe siècle, quand les califes quittent Bagdad pour s'installer un peu plus au nord, à Samarra. Ces hommes portent le titre de Maola Amir al-Mu'minin, qui met justement en valeur leur lien personnel avec le calife. Le premier est un gouverneur abbasside de Damas, Amadjour, qui occupa cette fonction entre 870 et 878. Pendant qu'il était en fonction, il passa commande d'une copie unique du Coran, écrite avec trois lignes de texte à la page, dans un style que j'appelle D1. Chaque recto des feuillets de parchemin, ils sont très petits, 12,5 cm sur à peine 20 cm, portait dans sa marge supérieure une note, que vous voyez ici, qui rappelait son nom, Amadjour, et le fait qu'il avait constitué le manuscrit Waqf, bien de main morte, mais sans préciser l'endroit. Le texte est écrit selon les principes de la scriptio continua, adapté à l'écriture arabe et permettant aux copistes de couper les mots en fin de ligne. Mais également, et ça c'est une originalité, entre un verso et le recto suivant. Dans les exemples précédents, tout le texte était lisible sur une page et quand on tournait la page, on voyait un autre mot. Ici, et on en a sous les yeux un exemple, nous avons le recto du feuillet, donc on voit seulement ceci, on ne peut pas voir ça. vous avez ici la lettre Ra, R, et ici Soul, prophète. Hein. Ra, Soul, il faut tourner la page pour avoir la suite, ce qui, du point, pour les arabophones, est quelque chose d'absolument scandaleux, puisqu'on ne coupe pas les mots, on les laisse tous ensemble. Là, il fallait, si vous voulez, on peut imaginer que pour lire ce manuscrit, il fallait tourner les pages à toute vitesse, dans la mesure où, comme vous le voyez, il y a parfois simplement deux mots à la ligne. Hein, donc ça allait, c'était pas, disons, d'une lisibilité extraordinaire. Les fins de versets du manuscrit ne sont pas indiquées, mais les dizaines le sont, avec des rosaces de ce type. Les enluminures les plus importantes sont placées en début et ou en fin de volume. Quatre décors en pleine page ont été conservés, et vous voyez la différence par rapport au décor en pleine page du Coran bleu, qui était une espèce de plaque dorée. Là, il y a un contraste entre la dorure, les espaces blancs, des points de couleur, etc., etc. Donc ça, ce sont des enluminures caractéristiques de la période. Leur conception est très homogène, ça vous le voyez aussi, aussi bien en ce qui concerne le décor principal de forme rectangulaire, la composition est pratiquement toute la même, et ici, vous voyez que les vignettes sont également pratiquement les mêmes. En revanche, les deux autres décors que nous connaissons, qui se trouvaient à la fin du manuscrit et qui recevaient le texte de la fin de la section à l'intérieur d'un cadre doré, sont dans un style complètement différent, qui n'ont rien à voir avec ce que je vous ai montré précédemment. Donc, soit nous avons affaire au travail de deux enlumineurs, voire de trois enlumineurs qui ont travaillé sur la série, soit deux séries, avec deux des enlumineurs travaillant sur l'une et d'autres sur l'autre. L'information est associée à ces deux décors, donc les cadres, au verso où se trouve le texte, de l'endroit où se trouve le texte, figurent deux actes de waqf qui ont été conservés. L'un complet, c'est celui qui est en haut, et l'un dont on a seulement la moitié, qui se trouve en bas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, si vous voulez, les huit lignes que vous avez ici pourraient être coupées à cet endroit, et on a exactement l'équivalent de la moitié du texte. Donc ça veut dire que, selon les nécessités, le copiste soit bloquait tout son texte sur un feuillet, soit le répartissait sur deux feuillets. Avec ce texte, nous apprenons que le manuscrit a été offert par Amadjour, qui se présente lui-même comme Maula Amir al-Mu'minin. Il n'indique pas qui est son père. Vraisemblablement, il était un esclave. Et décrivent une copie en 30 volumes, 30 juz, conservée dans deux boîtes, deux bibliothèques, si vous voulez, données comme waqf à Tyr. Mais nous ne savons pas si c'était pour une mosquée ou pour un autre établissement. La division qui est indiquée, le juz, correspond à un trentième du Coran. Et donc, nous pouvons calculer, puisque les deux actes ne sont pas de la même date, l'un est de mai 876 et le deuxième est de quelques mois, du mois suivant de la même année, nous pouvons presque calculer le rythme d'avancement des travaux. Amadjour avait été envoyé à Damas en 870 par le calife pour prendre la place d'un gouverneur qui ne donnait pas satisfaction et le remplacer. Il avait pris ses fonctions donc à ce moment-là, alors qu'il y a une espèce de reprise en main sous l'impulsion du frère du calife, Al-Muwaffaq. Le Coran fut donné avant une expédition qui a pris place en 877 sous le commandement de Moussa ibn Buha, contre le gouverneur de l'Égypte qui s'était rendu plus ou moins indépendant, Ibn Tulun. À cette époque, et même dès 872, ce dernier avait pris une certaine autonomie vis-à-vis du califat, et la Syrie était donc en contact direct avec une province de loyauté douteuse. Ça peut donc expliquer pourquoi le Coran a été offert à Tyr pour envoyer un message, puisque on rappelait qu'il y avait un calife à Bagdad et un gouverneur qui dépendait de lui à Damas. En fait, ces mesures de propagande ont eu un effet limité puisqu'elles n'ont pas empêché la défaite de 877 et la conquête de la Syrie par Ibn Tulun, ce qui fait que Amadjour quitta son poste rapidement. Mais bon, le manuscrit avait du moins déjà servi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la production du manuscrit ? Le style d'écriture lui-même, pardon, je ne vous ai pas montré ça, le style d'écriture lui-même d'Ehain est attesté dans toutes les collections de Coran que nous connaissons, qui suggèrent qu'il a eu une très large diffusion. Cependant, comme nous le verrons plus tard, cette écriture majestueuse pourrait être liée avec des ateliers installés dans le centre même de l'Empire, à Bagdad. D'ailleurs, les liens entre Amadjour et Samara et Bagdad pourrait soutenir l'hypothèse que le manuscrit dont nous traitons ici et un autre que nous allons voir dans un instant ont été effectivement produits en Irak et importés pour être déposés à Tyr. En ce qui concerne les caractéristiques matérielles, on peut faire une évaluation du texte grâce à une séquence de 37 feuillets qui a été conservée intacte, qui nous permettent de savoir que les 30 volumes contenaient en tout environ 6500 feuillets, et que donc chaque volume faisait 200 feuillets. Donc on avait affaire effectivement à une véritable bibliothèque en deux volumes. Voilà pour vous donner une idée du volume du texte. Une page du manuscrit correspond à peu près à 60, enfin, aux trois quarts d'une ligne. Donc vous voyez que la quantité de texte présente sur une page était infime. Le format oblong, comme pour le Coran bleu, impliquait un processus de découpage du parchemin extrêmement complexe pour produire ces bandes allongées correspondant aux bifeuillets comme ceux qu'on voit sur l'écran. Dans la meilleure des hypothèses, on réussissait à tirer 16 bifeuillets par peau si on prend la première hypothèse que j'évoquais tout à l'heure, et sinon, on avait bien sûr beaucoup de pertes, ce qui expliquerait pourquoi, à plusieurs endroits du manuscrit, nous avons des feuillets qui sont isolés et qui sont maintenus en place par ce genre de talon, c'est-à-dire une fine bande de parchemin qui permettait de coudre le feuillet auquel elle correspond avec le reste du cahier pour ne pas perdre tout ce parchemin. Ce qui ne veut pas dire que dans un cahier, on avait des morceaux de parchemin qui venaient de la même peau. Il est vraisemblable que tout cela était mélangé et utilisé au gré des besoins. Donc, d'après les chiffres que je viens de vous donner, on arrive à la conclusion qu'il a fallu soit 400 peaux de parchemin en partant de l'hypothèse de peaux qui font 50 cm sur 85, mais 540 si nous nous basons sur l'idée que les feuilles mesuraient 50 sur 60. Le chiffre est impressionnant, hein, 400 peaux, donc 400 animaux, ou 540, mais bien sûr, ça continue à être loin de ce qui était réclamé pour un manuscrit comme celui-ci, dont nous avons vu qu'il fallait un millier de bêtes pour le produire. Alors, le deuxième manuscrit dont je voudrais évoquer l'existence est connu à travers deux fragments, dont le premier est conservé à Saint-Pétersbourg dans la collection Marcel. Il en reste très peu, d'ailleurs. Deux feuillets sont conservés là-bas. Mais surtout, ces deux feuillets sont accompagnés par un acte de waqf intéressant. Il y a donc la fin du texte sur le recto, et au verso commence ce document que l'on voit ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est les deux cadres qui correspondent à ce document ressemblent tout à fait à une inscription, non pas tant forcément par la forme des lettres, qui pourraient aussi ressembler à des exemples qu'on trouve sur des manuscrits, mais vous voyez, toute cette occupation du fond par des petits décors, ça fait tout à fait penser à ce qu'on rencontre en épigraphie. Donc c'est un style très différent de la présentation que l'on a sur les manuscrits, où on n'a précisément absolument rien de cela. L'acte est formulé de manière inhabituelle. Alors, pour le revoir in situ, il faut le voir comme ça. Nous avons deux feuillets avec le début du texte ici, qui se poursuit de l'autre côté, et en dessous, vous avez la transcription en caractère moderne. Alors, l'acte est formulé de manière tout à fait habituelle parce que, d'abord, il n'est pas daté directement, mais nous y rencontrons le nom d'un personnage, Boa al-Kabir, Boa l'aîné, qui est celui d'un commandant militaire turc qui a joué un rôle clé sous le règne du calife al-Mu'tasim et de ses successeurs. C'est un homme de guerre, il a été impliqué dans des opérations dans la région de Médine au moment d'un soulèvement en 844-845. Il a combattu en Arménie, plus tard contre Byzance, et il est mort en 862. Mais ça n'est pas lui qui est concerné, le donateur est son fils, un certain Abu Mansur al-Fatr. Malheureusement, donc son nom figure ici. Malheureusement, nous avons des informations sur les fils de Boha, mais seulement trois d'entre eux, Moussa, Muhammad et Habshoun, et aucun Abu Mansur al-Fatr. Alors, le Habshoun est très brièvement mentionné par Tabari, qui dit qu'il est mort en mai 865, et donc on peut l'écarter. Muhammad a été tué en 870, victime de la lutte entre le calife al-Murtadi et son frère Moussa, qui est certainement le plus connu. Comme son père, Moussa est un chef militaire, mais il a été aussi en charge du service postal, ce qui veut dire du service de renseignement. Quand al-Murtadi parvint au califat, il avait probablement espéré, enfin le calife avait espéré pouvoir se débarrasser de Moussa alors que les troupes turques de Samarra commençaient à poser des problèmes, ce qui était un peu une situation paradoxale puisqu'elles avaient été amenées par les Abbassides pour assurer leur protection et assurer une certaine, disons, tranquillité qu'ils ne trouvaient plus à Bagdad. Mais là aussi, les choses avaient changé et donc le Moussa était à la tête de ces troupes qui n'étaient pas toujours très obéissantes. Moussa fut envoyé en expédition. Mais apprenant que le calife cherchait à se débarrasser de lui, avait tué son frère, il revint, réussit à convaincre l'armée de renverser al-Murtadi, lequel fut mis à mort le 21 juin 870. Après le meurtre du calife al-Mutawakkil, Moussa semble avoir été un proche collaborateur d'al-Muwaffaq que j'ai déjà mentionné, le frère d'al-Murtadid, et qui a été l'homme fort du régime abbasside à ce moment-là. Et Moussa est mort en 877. Alors, bien que les sources ne disent rien d'Abu Mansour al-Fatr, l'information dont nous disposons sur Boha et ses fils est déjà pour le moment suffisante pour dater le manuscrit du milieu des années 70 du IXe siècle, qui serait donc la date à laquelle il a été remis à une mosquée non identifiée. Alors, nous avons par chance une autre version de l'acte qui est à la Bibliothèque nationale et qui pourrait éclairer l'histoire du manuscrit et l'identité du donateur. Donc, c'est un feuillet qui figure dans un recueil factice. Et d'un côté, nous avons l'acte. Vous reconnaissez la partie inférieure de ce que nous avons vu tout à l'heure, hein, cette espèce de forme d'inscription. Vous voyez que dans la partie supérieure, on a gratté le parchemin et on a écrit quelque chose dessus. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on a un décor. Donc c'est ça qui était le recto. Et de l'autre côté, au verso, il y avait donc cet acte de waqf. Deux lignes et demie ont été effacées dans la partie supérieure du texte et recouvertes par d'autres lignes d'écriture, mais il en reste assez pour identifier la parenté entre les deux documents. Le nom du donateur original, Abu Mansour, a été d'ailleurs épargné, donc ce qui veut dire que la personne qui a gratté on le voit apparaître ici. Où est-ce qu'il est ? Voilà, il a été laissé donc juste à cet endroit. Donc il en reste suffisamment pour qu'on puisse lire le nom, plus ou moins bien. Signe que le manuscrit n'a pas été complètement détourné par quelqu'un d'autre. Alors, le texte commence par un verbe qui n'est pas lisible, mais qui, grosso modo, a donné ou a présenté, et juste après, le nom d'un certain Hossein al-Hadim, donc Hossein le serviteur, qui se définit comme un client de Boha al-Kabir, donc le personnage que nous avons vu tout à l'heure. Boha est présenté avec le titre de Maula Amir al-Mu'minin, Puis vient à la ligne 2 un nom de lieu, Biliskenderia à Alexandrie. Donc nous savons, cette fois-ci, où le manuscrit a abouti, Alexandrie, avec une précision, l'ensemble a été déposé dans le Mahras, je vais revenir là-dessus dans un instant, de Moussa ibn Buha al-Kabir Maula Amir al-Mu'minin. Mahras, c'est un mot qui désigne, définition d'un dictionnaire, celui de Dozy, une enceinte fermée de murs et assez grande pour loger une petite garnison où les aisés musulmans se réunissaient pour faire la guerre aux non-musulmans. En d'autres termes, c'est un ribat. Cette signification est connue, on la trouve encore dans des textes du XIVe siècle, mais qui reprennent sans doute des formules antérieures au lieu du mot « ribat » que l'on connaît sans doute davantage. Alors, je n'ai trouvé aucune information sur un bâtiment de nature défensive à Alexandrie durant le IXe siècle qui pourrait correspondre au Mahras mentionné dans l'acte. Les murs de la ville, on le sait, ont été démolis à la suite de la conquête arabe, et bien que certains historiens aient suggéré que les défenses avaient été reconstruites sous Ibn Tulun, les sources ne mentionnent pas de fortifications avant la période fatimide. L'acte de Waqf donc, fournit d'abord de nouvelles informations sur Alexandrie durant la période abbasside et justifie, au moins en partie, l'hypothèse que sous les Toulounides, donc au moment où nous parlons, entre 868 et 905, on ait commencé à remettre des fortifications autour de la ville. Ce que nous apprend le document, c'est qu'un officier turc, étroitement associé au calife abbasside, Moussa donc Ibn Buha, étroitement associé au calife abbasside et donc aux tentatives que les abbassides faisaient pour faire rentrer dans le rang Ibn Tulun, avait fait construire à Alexandrie un mahras à ses propres frais, un peu comme si, pour prendre une comparaison contemporaine, l'actuel homme fort de la Corée du Nord faisait construire une forteresse en Corée du Sud. C'est à peu près, enfin, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais ce serait pas loin de cette situation. Alors, du coup, est-ce qu'on peut en conclure quelque chose à propos d'Abu Mansour al-Fath ? On peut en fait imaginer que Abu Mansour al-Fath, c'est un nom honorifique qui insiste sur les capacités de, disons, de chef militaire victorieux, qui a été utilisé par Moussa pour se désigner lui-même dans un document qui était de toute évidence destiné à aller le représenter dans un endroit où il n'avait rien à faire. Il était le représentant du calife abbasside. Ibn Tulun voulait absolument garder son autonomie vis-à-vis des abbassides et faisait tout ce qu'il pouvait pour les empêcher de parvenir à cela. Et nous avons vu qu'en 877, Moussa était à la tête de l'armée abbasside pour essayer de remettre dans le rang Ibn Tulun, et ça s'est terminé par une défaite des troupes abbassides, et Ibn Tulun avait même gagné le territoire syrien. Donc, c'est une situation extrêmement intéressante, puisque on n'imaginait pas jusqu'à présent ce type de relation, et on va le voir que ça a une incidence sur la façon dont les copies du Coran étaient utilisées. Donc, l'acte tel qu'on le voit maintenant, corrigé, donne la quasi-certitude que Abu Mansour et Moussa étaient une seule et même personne. Le nom, d'ailleurs, d'Abu Mansour n'a pas été effacé, signe que ça ne gênait absolument pas de le laisser en place. Lorsque Hossein a ajouté le nouveau texte ou fait ajouter le nouveau texte. En raisonnant par l'absurde, ce serait une coïncidence tout à fait remarquable que les deux frères, à supposer que Abu Mansour et Moussa ne soient pas la même personne, aient eu chacun un lien avec l'Égypte, que leurs intérêts aient si parfaitement coïncidé que la copie envoyée par l'un ait été déposée dans une fortification liée à l'autre. Donc ça paraît un petit peu trop exagéré. Nous savons en revanche que Moussa avait des intérêts très directs en Égypte, puisqu'il était officiellement, sur le papier, chargé des affaires égyptiennes aux côtés du prince héritier abbasside. et qu'il possédait également en Égypte des propriétés qui d'ailleurs furent confisquées par Ibn Tulun dès que Moussa mourut. L'acte de Waqf, donc corrigé, montre qu'il était tellement engagé qu'il avait même fait construire une fortification à Alexandrie, peut-être justement dans le cadre de son implication dans ces affaires égyptiennes. Comme le lieu de la production de la copie est un sujet de débat, on peut supposer que soit elle a été fabriquée en Irak et que Hossein avait été chargé de la transporter vers l'Égypte, soit qu'il a été chargé de superviser localement sa production. En tout cas, il devait certainement le déposer dans un endroit où il pouvait être vu, et on peut bien sûr penser à la grande mosquée de Foustat, où ça aurait été la place d'un Coran de ce calibre. Mais bien sûr, c'était une sorte de déclaration de propagande. Imaginez, encore une fois, je reviens à mon exemple coréen, qu'en plein Séoul, on ait une statue de Kim Jong-il déposée par son fils. Ça aurait été vraiment de la provocation. Donc ce qu'on peut supposer, c'est que les autorités égyptiennes ont fait poliment savoir qu'il était hors de question de mettre le Coran à Foustat et ont invité poliment Hossein à la transporter à Alexandrie, où elle serait tout aussi bien que chez eux. Donc l'acte, peut-être pour cette raison, avait cette formulation extrêmement curieuse qui commence par insister sur la propriété d'Abu Mansour al-Fath. Si je reviens à ici, vous voyez que généralement les actes de Waqf commencent par le verbe qui signifie qu'on dépose une copie en bien de main morte dans une mosquée. Or, ici, il commence par « baraka minallah », etc., donc une formule pieuse qui n'a rien à voir avec le waqf. Et alors que ce manuscrit va être remis à la mosquée, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il est, cette jouze, Li Abi Mansour al-Fath, qu'ils appartiennent à Abu Mansour al-Fath, et tout à la fin de la page, on voit enfin le verbe « habasa », à consacrer en bien de main morte. Donc, première chose, on rappelle qui est le patron, qui est donc effectivement un personnage important, qui est Maola Amir al-Mu'minin, un affranchi du souverain abbasside. Et puis, une fois que les choses ont bien été mises en place, on passe, disons, à la suite et au fait que le Coran est déposé. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le lieu de dépôt n'était pas précisé, puisqu'on ne savait pas où est-ce qu'il allait aboutir. On l'a envoyé depuis Bagdad, ou on a envoyé depuis Bagdad des instructions, et après ça, Hossein, sur place, a été chargé de gérer une situation qui devait loin d'être facile. J'arrive maintenant à mon dernier manuscrit, rassurez-vous. C'est un manuscrit qui est à l'état de fragment, comme les précédents, et qui est conservé à Istanbul, dans les papiers d'Adamas. Il y a, dans ce cas-là, de nouveau, on a un manuscrit en écriture de style D1, avec une très belle enluminure de l'autre côté, un manuscrit qui est de taille relativement plus importante que celui de Damajour, puisqu'il mesure 20 cm sur 28,5. Alors, il commence par un feuillet sur lequel se trouve un acte de waqf où figure le nom d'un personnage, Badr, qui était non pas Maola lui-même, même s'il en porte le titre, mais fils d'un Maola, d'un affranchi d'Al-Mutawakkil. Il occupait une position de premier plan sous le règne du calife Al-Mu'tadid et, de fait, c'est lui qui a été préfet de police de Bagdad en 1891, avant qu'Al-Mu'tadid accède au trône. L'année suivante, il est devenu commandant en chef des armées et, dans le fonctionnement du régime abbasside à cette époque, il partageait les responsabilités avec le vizir Ubaydallah ibn Sulayman, dont le fils prit la succession. Et visiblement, le fils n'avait porté pas Badr dans son cœur, puisqu'il réussit à ourdir sa chute, et Badr fut finalement éliminé physiquement le 14 août 902. Alors, notre manuscrit, comme vous le voyez, a été remis à la mosquée de Damas. Donc là, cette fois-ci, nous savons très bien de quoi il s'agit. Hein, c'est à Damas que les choses se passent. Pourtant, Badr, qui a fait campagne en tant que chef des armées dans les différentes parties de l'Empire, mais il n'est jamais venu plus près de la Syrie que la Jazira, c'est-à-dire le nord de l'Irak ou le nord de la Syrie. C'est pour une raison très simple, c'est que les Toulounides étaient les maîtres de la Syrie et donc tenaient les lieux et se souciaient assez peu de faire passer quelqu'un qui représentait le calife de Bagdad. Donc, même situation que précédemment, nous avons un manuscrit qui est offert par quelqu'un qui est au service du calife de Bagdad dans une mosquée qui se trouve en territoire non pas hostile, mais enfin pas très amical. De fait, Damas n'est redevenu abbasside qu'en novembre 903, c'est-à-dire après la mort de Badr. Alors, aucune date n'apparaît dans le manuscrit, certes, mais bien sûr, comme il est mort en 902, qu'il avait commencé à occuper ses fonctions importantes en 892, c'est donc au cours de ces 10 années que cela s'est passé. Cette situation corrobore l'hypothèse selon laquelle le manuscrit avait été produit en Irak et envoyé en Syrie, donc ce serait encore une fois un produit d'un atelier irakien, chose qui est absolument capitale dans la mesure où nous n'avons absolument aucune idée de l'art du livre dans le cœur de l'Empire abbasside. Nous avons des choses qui se trouvent à Foustat, à Damas, mais aucun moyen de faire le lien. En revanche, avec des manuscrits comme ceux-ci, nous arrivons à savoir à quoi ressemblaient les productions de l'Irak lui-même. Ce qui reste des 3 manuscrits est bien sûr relativement maigre, mais suffit pour apprécier la qualité de la calligraphie et de l'enluminure impliquée dans leur production. Ce sont tous des copies en 30 volumes, écrites dans une écriture de grande taille, qui représentent le summum de la calligraphie au cours du IXe siècle, même si, pour ce qui est de l'art du livre, les enluminures du Coran d'Amadjour sont peut-être d'un niveau inférieur. C'était des objets très coûteux dont la production exigeait énormément d'argent, même si leur format n'est pas très impressionnant. Je vous donne pour mémoire la taille des manuscrits. Vous voyez que ce sont des manuscrits qui ne dépassent pas un A4. Hein. C'est rien de très impressionnant par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Mais c'est vrai que, vu la taille de l'écriture, nous avons des manuscrits qui ont demandé un investissement considérable, depuis le parchemin, dont il faut entre 95 et 160 mètres carrés, du cuir pour les reliures, du bois pour les reliures de nouveau, pour les coffres où était conservé le volume, l'or pour les enluminures, pour ne rien dire de la main-d'œuvre. Les écritures sont des exemples absolument remarquables du groupe D des écritures abbassides anciennes, D1 dans le cas de Majour et de Badr, D3 dans le cas de la copie qui a été produite pour Moussa ibn Moham. Dans les 3 cas, le texte a été transcrit par des copistes hautement qualifiés. Le Coran d'Amadjour est certainement de loin le plus impressionnant, avec ses 3 lignes à la page, qui ont entraîné une augmentation tellement spectaculaire du nombre des feuillets qu'il a fallu 2 coffres, et non pas un seul, pour abriter les 30 volumes. Les 2 autres manuscrits sont sur des pages de plus grande taille, avec plus de lignes, et donc bien sûr moins de feuillets. Le travail des différents artisans et artistes impliqués dans la production de ces manuscrits, ainsi que les matériaux, exigeaient bien sûr des sommes considérables. Les officiers turcs dont nous parlons, ces Maola Amir al-Mu'minin, disposaient personnellement de richesses considérables et pouvaient se permettre d'investir dans ce genre de production, même si la situation financière du califat à cette époque était loin d'être très solide. Amadjour était gouverneur de Damas, le Badr était commandant en chef, quant à Moussa, il était pratiquement dans la même situation. Compte tenu de la rareté de notre documentation pour cette période, les 3 manuscrits que nous venons de voir représentent pratiquement une série. Le don d'une somptueuse copie coranique par des hommes qui se qualifiaient de Maula Amir al-Mu'minin en faveur d'une mosquée ou d'une fondation qui, dans 2 cas, ne se trouvait pas dans une ville sous leur autorité effective, représente un schéma qui leur est commun. L'apparence des documents, particulièrement élaborée pour la copie de Moussa, est frappante. D'autres documents juridiques contemporains, donc en principe les waqfs sont des documents juridiques, notamment un diplôme d'Ibn Tulun que vous voyez à l'écran, utilise, comme vous pouvez le constater, des écritures beaucoup plus modestes d'apparence, très proches d'ailleurs de celles qu'utilisait la réécriture de l'acte de Moussa par Hossein, son serviteur. L'aspect épigraphique de l'acte de Waqf du Coran de Moussa coïncide clairement avec la disposition des deux autres actes, suggérant qu'ils étaient la copie d'une inscription figurant sur les coffres mentionnés dans les documents qui accompagnent les manuscrits. Nous n'avons pas conservé d'exemple abbasside de coffre, mais une copie zyride du Coran était rangée dans le coffre que vous voyez sur l'écran, qui est au musée de Raqqada, avec dessus une inscription qui rappelait la personne qui avait remis le manuscrit. Donc, ce que nous avons sur les manuscrits, c'est vraisemblablement une sorte de facsimilé de l'inscription qui était à l'extérieur, qui représentait une déclaration, disons, d'allégeance au calife et permettait donc de rappeler son importance dans la structure du monde musulman de l'époque. Les implications religieuses ont pu être également complexes entre le désir personnel de ces affranchis, de ces maolas, d'apparaître comme de bons musulmans et la diffusion de la connaissance du texte sacré à cette époque. En plus des agendas religieux et politiques derrière ces dotations, l'envoi de ces copies dans les villes de province a contribué à la diffusion de l'écriture, de l'enluminure et des styles de reliure inventés en Irak. On sait peu de choses sur la production de livres à Bagdad, je le disais, à l'époque abbasside, et ces copies du Coran pourraient faire la lumière sur les caractéristiques des manuscrits qui étaient produits dans cette région. Ces trois copies nous révèlent un changement en profondeur des stratégies liées à l'utilisation des manuscrits du Coran par les élites musulmanes. Certes, la motivation fondamentale reste identique, je le rappelle, c'est-à-dire le désir des princes et de leur entourage de manifester de manière forte et visible leur engagement vis-à-vis de l'islam et leur respect pour le texte sacré, notamment, il faut le rappeler, en un moment où le débat sur sa nature faisait rage. C'est l'époque des Mu'tazilites. Donc il y avait des gens qui se battaient dans la rue pour savoir si le Coran était créé ou incréé. Donc pensaient que c'était quelque chose qui était vraiment au cœur de l'actualité. Mais le vecteur de ce message est autre. Au lieu des manuscrits énormes qui s'étaient sans doute avérés trop fragiles ou trop difficiles à manipuler, les séries de volumes s'imposent à cette époque. Leur coût n'était pas forcément moindre que celui des in-folio ou in-plano antérieurs, et leur présence dans les mosquées demeurait tout aussi visible. Le choix des matériaux a changé, l'or est devenu une composante absolument fondamentale, que ce soit pour le Coran bleu, pour l'exemplaire conservé à Istanbul, ou encore les trois séries que nous venons de voir. Ce dernier exemple nous invite sans doute à rechercher l'origine de cette modification de perspective au Proche-Orient et probablement en Irak. Un dernier point. Si notre hypothèse sur l'identité du commanditaire du Coran bleu est exacte et qu'il fut un calife abbasside, nous devons nous interroger sur le changement de situation que reflètent les trois Corans des officiers turcs. En effet, nous n'avons plus d'exemple de don d'un manuscrit du Coran par un calife pendant une période relativement longue. En revanche, l'intervention de ces hommes qui se présentent tous comme des maoulas Amir al-Mouminin pourrait correspondre à une prise de distance des califes par rapport à un processus qui s'était plusieurs fois reproduit au cours de la période précédente, ainsi que nous l'avons vu. Ce changement de position s'expliquerait notamment par des conditions nouvelles où des parties de l'Empire échappaient à l'autorité califienne et où le don d'un manuscrit se trouvait correspondre à un acte de propagande en territoire sinon ennemi, du moins distant. Comme semblent le révéler les vicissitudes du Coran de Moussa, ce genre d'opération pouvait donc se heurter à la réticence, voire au refus des autorités locales. Le commanditaire officiel, un maoula Amir al-Mouminin, pouvait, mieux que le calife, supporter l'affront de voir les autorités locales dérouter leur présent, un Coran, vers un lieu aussi peu prestigieux qu'un obscur Marras. Je vous remercie.